service culturel et tient une chronique de science-fiction depuis plus de 25 ans. Il est également conférencier à 16 heures. Et enfin, Anne Besson, qui est mon... Non, à 16 heures uniquement. Ce que tu fais à 10 heures ne me regarde pas. Anne Besson, maître de conférence en littérature générale et comparée à l'université d'Artois, à Arras, et donc spécialiste des ensembles romanesques, particulièrement en science-fiction, fantasy et littérature de jeunesse. Alors, première question, Bernard Wyss, à quel moment a été créé le prix Imaginal ?
Nous avons pensé créer ce prix dès la première année du festival, même avant, d'ailleurs, puisqu'on y avait pensé peut-être un an ou deux avant, pour des raisons de valorisation du livre. On s'est dit qu'une grande manifestation comme celle qu'on voulait préparer à cette époque-là, qui est devenue, je pense, une belle manifestation, il fallait vraiment qu'un prix accompagne notre image. Et que notre image accompagne certains livres, en fait, c'est ça, c'est un jeu. Donc, pour répondre très précisément à la question, c'est en mai 2002 que le premier prix Imaginal a été remis, et en particulier pour le prix du roman, c'était Juan Miguel Aguilera, qui est notre invité cette année, qui l'a reçu déjà en 2002.
D'accord. Et que récompense plus particulièrement ce prix ?
Ce prix, c'est le premier prix de fantasy qui a été créé en France, si je ne m'abuse. Et il récompense plusieurs catégories d'ouvrages. Le roman francophone, le roman étranger traduit, bien sûr. Le prix de l'illustration, le prix du jeunesse, le prix de la nouvelle. Et le prix spécial du jury qui récompense un ouvrage qui n'a pas pu forcément rentrer dans les catégories précédentes.
D'accord. Jérôme, comment s'organise votre travail dans le temps ? Est-ce qu'il y a des moments de lecture, des moments où il y a bien un moment où il faut mettre des choses en commun, un moment où il faut choisir ? Donc, au niveau du planning, comment ça se passe ?
Il y a un boulot de repérage. Donc, on fait un petit peu tout ça, et notamment avec Anaïk, notre secrétaire du jury, avec qui on discute pas mal. Donc, Anaïk contacte les éditeurs, nous on reçoit. Les ouvrages, on en reçoit, en plus, moi j'en reçois en plus au titre d'ActuSF. Il y a tout un plan de surveiller aussi tout ce qui est la production et tout ce qui sort un petit peu en fantasy. Hein. Il y a tout un temps où on s'échange des mails les uns avec les autres assez régulièrement, une fois par mois, une fois tous les deux mois, en disant tiens, là il y a un truc qui est vachement bien, ou ça j'ai été un petit peu déçu, ça sera en discussion interne. Le prix récompense donc des ouvrages sur l'année, donc ça sera un petit peu un boulot de fond, quoi. À l'arrivée du prix, enfin à l'arrivée du jury, un petit peu, les discussions s'intensifient, on fait une première tournée pour désigner un petit peu les nominés, et puis après il y a d'importantes délibérations au sein d'un repas où on participe tous. Mais ça ne peut que rester secret, évidemment. On ne peut pas tout dévoiler véritablement. Mais le menu est en général assez intéressant. Voilà. Le menu, bien évidemment. Et le vin. Le vin, on est plutôt sur une tendance Côte-du-Rhône ces dernières années en termes de prix imaginal. Bon, ça a changé, la fantaisie évolue, nous aussi.
Ceci dit, pour l'avoir vécu, puisque j'ai fait partie de ce jury à un moment, effectivement, le vin permet après de dériver les débats. On a quelquefois les idées plus claires. Alors, justement, Jérôme, tu as parlé du secrétaire. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui ont certaines fonctions au sein du jury. Le président, le secrétaire. D'ailleurs, peut très bien faire un petit peu tourner la parole. On va peut-être demander à Jean-Claude.
Il ne faut pas qu'on oublie Jacques.
Oui, Jacques Grasser, bien sûr.
C'est le président.
Voilà. Donc, justement, le président, quelle est sa fonction ?
En fait, la fonction la plus importante, c'est celle de rapporter
chacun a pu repérer. C'est intéressant.
Juste un petit mot sur Jacques, parce que Jacques est notre président. Quand on dit titre honorifique, c'est pas du tout des valeurs, parce qu'en fait, on a un jury, on s'entend bien, et Jacques fait partie à part entière du jury, et on discute. Et cette fonction de président qui, dans notre prix, parfois donne une voix de plus ou de moins qui fait la décision chez nous, elle se fait vraiment tous ensemble, quoi. Et ça, c'est super agréable. Enfin, pour moi, Jacques fait vraiment partie de notre équipe, quoi. En plus, il aime le coup du rôle. Enfin, bon,
alors, justement, j'en venais aux liens qui peuvent unir les membres de ce jury et à la convivialité qui peut y régner. C'est Pierre Assouline qui, lorsqu'il a rejoint le concours, donc l'Académie Concours, disait qu'il avait été très surpris, lui qui de l'extérieur voyait ça comme une institution assez rigide, enfin qui s'était fait toute une idée sur la question, avait été très surpris de la très grande convivialité qui régnait entre les membres de l'Académie Goncourt et qui avait découvert que pour pouvoir vraiment échanger autour des livres à cœur ouvert, ça nécessitait une grande confiance entre les membres, ça nécessitait que ce moment-là soit aussi un moment agréable parce que les discussions ne sont pas toujours simples. Surtout lorsque une partie des membres du jury vont plutôt soutenir un livre, d'autres en ont préféré un autre, et là, il y a des discussions qui parfois peuvent être vives, et que ça nécessitait vraiment des liens vraiment de très forts, d'amitié, et puis aussi de pouvoir avoir un cadre convivial autour d'une bonne table, où le repas, justement, est quelque chose qui met une ambiance un peu plus sereine, des discussions qui parfois peuvent être difficiles. Est-ce que, Anne Besson, tu as eu la sensation de ce même type d'ambiance lorsque tu as rejoint le prix Imagimal?
Effectivement, j'ai vraiment rejoint un groupe qui était déjà en partie constitué et dans lequel, la même année qu'à la Ligue, hein, on a pu faire notre place de manière très naturelle. Je crois qu'on a confiance dans le jugement les uns des autres, ça c'est très important. Il n'y a pas d'opposition interne, du coup tu parlais de discussion très vive. Alors oui, bien sûr, on a chacun nos favoris, plus ou moins chaque année, mais on en a déjà discuté en amont, on a déjà donné nos notes, etc. Donc on voit comment la tendance se dessine. Et effectivement, autour de la table, bon, il est rare qu'il y ait plus de tours de vote. Bon, je pense que c'est le maximum qu'on ait atteint. Et justement, parce qu'il y a de la préparation en amont et puis il y a de la confiance. On peut vraiment exprimer nos arguments. On a aussi un vrai effort, une vraie exigence d'honnêteté intellectuelle. On sait bien que c'est un petit milieu. Alors, moi, j'y suis relativement extérieur parce que je suis universitaire, donc ça me protège parce que j'ai plus de lien avec aucun des éditeurs, aucun des auteurs, même si c'est de moins en moins vrai d'année en année parce que je les connais, j'apprends à les connaître, à les trouver plus ou moins sympathiques, etc. Il faut qu'on fait vraiment très attention à ce qu'il n'y ait aucun critère subjectif et encore plus économique qui viennent entacher nos discussions. C'est une autre des choses qu'on prend vraiment en compte dans la manière dont on attribue le prix collectivement.
Là, je m'adresse à la fois à Bernard et à Jean-Claude qui donc font partie de ce prix depuis l'origine, mais très tôt. Un certain nombre de personnes sont arrivées. Alors moi, j'en ai fait partie un moment et ensuite j'ai quitté le prix parce que je voulais me consacrer davantage à des lectures de science-fiction hispanique, etc. Et ça demande un temps fou. D'ailleurs, oui, c'est ça aussi. Je voulais vous demander, au niveau des temps de lecture, vous recevez à peu près combien d'ouvrages par an? Ça demande vraiment, enfin, on doit s'y consacrer quelquefois, ça fait aussi un peu d'autres lectures.
Ouais,
lectures. Oui, c'est plutôt par rapport à Bernard ou Jean-Claude?
Non, une évolution, non. L'arrivée de nouveaux membres du jury ne change pas, ne bouleverse pas du tout les discussions. Il y a évidemment des préférences. Certains préfèrent une fantaisie comme ceci, d'autres une fantaisie comme cela. Et donc là, ça se s'ajoute. Mais comme justement c'est collégial, la discussion, même si parfois elle est opposée, il y a une majorité qui se dégage en tout cas. Il y a des discussions, on n'est pas tous au consensus. On n'est pas en politique belge dans les imaginaires, on est vraiment dans un jury où on discute aussi, on n'essaye pas d'arriver avec le moins mauvais cas possible, ou celui qui va faire le moins de vagues, on affiche vraiment nos préférences. Et donc, non, ce qu'il faut, il n'y a pas eu de modification dans la manière d'appréhender les livres, la manière de jouer son rôle chacun dans ce jury. A été remplacé tout à fait bien par une nouvelle personne. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de différence.
C'est-à-dire que, la question principale qui se pose, c'est la personnalité du remplaçant. Et nous y sommes particulièrement attentifs, je pense. Chaque fois que nous avons coopté un membre qui a certaines qualités que nous souhaitons. Quelqu'un qui connaisse un peu le milieu, quelqu'un qui représente un peu quelque chose, quelqu'un qui lit, quelqu'un qui honnête, c'est l'une des premières qualités que nous recherchons. Voilà, donc quand quelqu'un d'autre entre à la place de quelqu'un qui est parti, c'est là que réside le vrai travail en fait de constitution du jury. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi des gens arrivent, pourquoi des gens partent, c'est que sur 13 ans, il y a des évolutions dans les carrières. Donc, certains membres du jury qui étaient là en 2002, à l'époque, n'étaient pas auteurs, ou alors n'étaient pas publiés. Là, ils sont, c'est le cas de Sylvie, par exemple, c'est le cas d'autres, sont publiés. C'est un peu embêtant d'avoir quelqu'un qui, encore ça va, c'est surtout ceux qui deviennent éditeurs, donc ont des actions avec les éditeurs, donc on essaye de faire. Quand un éditeur est chez nous, quelque part on ne défend pas, il ne défend pas ses ouvrages, c'est le cas de Jérôme, on ne donne pas de prix, enfin, je ne crois pas, ActuSF directement, puisqu'il est là. Alors peut-être que ça lui pèse quelque part, peut-être de temps en temps il va peut-être défendre un auteur ou un autre, mais c'est cette qualité et c'est cette honnêteté que nous cherchons chez les gens.
Et donc, vous avez des métiers différents entre journaliste, responsable d'un service culturel, éditeur, gérant un site web, universitaire. Est-ce que vous avez l'impression que vos parcours divers aux uns et aux autres enrichissent vos discussions et vous permettent vraiment d'avoir des visions différentes autour de vos lectures ?
J'aurais pensé que davantage. Voilà, moi, je rentrais dans ce milieu après l'avoir étudié de l'extérieur dans le cadre de ma thèse et de mes recherches, etc. Et il y a une vieille opposition traditionnelle entre l'universitaire et le fan ou l'amateur. Et en fait, voilà, c'est faux, hein, c'est le moment que c'est dépassé. Après, comme différence, il y a les retours qu'on peut faire sur nos lectures. Moi, en tant qu'universitaire, donc j'ai la chance d'avoir un emploi du temps qui est consacré à la lecture et à l'écriture. Enfin, c'est mon travail de lire des livres et d'écrire sur les livres. Donc, ça s'est transformé en chronique que je fais sur ActuSF parce que je fais des fiches de lecture sur chacun des ouvrages, dans le nom de mes camarades, alors qu'on se prend un peu moins de temps à consacrer, pour juste faire des remarques plus courtes. Voilà, tel livre, oui, vas-y, tel nom, c'est pas la peine. Donc c'est plus en termes de temps que les mêmes choses, mais dans l'année au défrichage et à la mise en commun des informations. Donc, moi, ce que ça change, c'est vraiment pas une question d'expertise, mais voilà, de possibilité, de compatibilité avec mon métier.
Lorsque justement, donc là, tu nous parles des échanges, voilà, tel ouvrage, oui, bien, tel ouvrage, oui, non, plutôt à écarter. Quels sont les critères qui vont guider vos choix? Parce qu'il y a un certain nombre de critères fondamentaux, puisque vous êtes, votre mission, c'est de repérer et ensuite de récompenser le meilleur de la fantaisie. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que le meilleur de la fantaisie? Quels sont les critères qui sont importants pour vous?
Moi, je suis journaliste et donc je fais un peu, je vais faire un peu de la critique littéraire, puisque je suis responsable non plus du service culture, mais du supplément littéraire du soir. Et moi, je n'ai pas une série de critères très universitaires sur la façon dont j'appréhende un bouquin, mais je veux dire très académique sur la façon dont j'appréhende un livre. Il faut que ça me touche d'abord, que j'ai envie de continuer à lire. Ça, c'est la première des choses. Après la 20e page, on a envie de poursuivre. Il y a des bouquins qu'on abandonne après la 20e ou la 40e page. Ça, c'est, il ne faut pas se lever, on ne peut pas lire. Moi, j'abandonne. Donc, il y a d'abord cette impression très subjective. Voilà, il y a un bouquin qui me passionne vraiment. Et puis, après cela, on voit pourquoi ça me passionne, pourquoi est-ce que ça fonctionne vraiment bien, quel est la structure, l'écriture, les nouvelles idées d'imagination de ces livres qui nous ont emballés. Et c'est comme ça que moi je repère ce que j'aime et ce que je pourrais défendre au sein du jeu.
Il y a une notion de qualité intrinsèque. C'est qu'est-ce que ce bouquin comporte comme qualité, qu'est-ce qu'il apporte. Et puis il y a une notion aussi de temporalité sur cette année, quel a été le livre marquant de fantasy ou les livres marquants de fantasy, et parmi ces livres, quel est le meilleur, quoi. Et souvent, on se retrouve avec un choix qui est presque une évidence. C'est-à-dire que, évidemment, ce sont des discussions internes, mais on peut défendre tous nos choix, on peut défendre tous nos lauréats. Cette année, on a Jean-Philippe Jaworski avec Roi du Monde, même pas mort. Il faut lire ce roman, il faut comprendre comment structurellement il est puissant, il est beau, il est intéressant, pour comprendre que c'est un gagnant, et c'est un gagnant évident. Lui et les autres ont plein de qualités, ils auraient pu faire tous les nominés, auraient pu être lauréats, mais même pas mort, on n'a pas à rougir. En termes de qualité, en termes de structure littéraire, en termes d'apport global, c'est absolument génial.
Il y a le style, il y a l'originalité, et effectivement, il y a des livres qui se détachent. Voilà, le Jaworski, le Neddy Roquefort, bon, on n'a pas de doute que c'est les meilleurs romans de fantasy de l'année, ils ressortent.
Et d'ailleurs, concernant Jean-Philippe Jaworski, vous n'êtes pas trompé, puisque vous l'aviez déjà distingué en 2009 avec Gagner la guerre, qui était son premier roman. Et donc, finalement, ça se confirme, et c'est vrai que quand on regarde les gens que vous avez primés, bon, Jean-Philippe Jaworski, j'en prends quelques-uns justement, Brandon Sanderson, Charles Bousquet, Justine Niobret, Thomas Bay, Pierre Bordage, Henri Levenbruck, Pierre Peuvel, Megan Mindol, Juan Miguel Aguilera, on se rend compte que c'est des gens qui ont de belles carrières, et que, en son temps, vous aviez déjà repéré des choses qui laissaient présager qu'il y avait vraiment un vrai regard intéressant et un vrai apport à la fantaisie. Alors, je voulais justement revenir, à travers cette constatation, au rôle que peut tenir un prix littéraire dans le paysage éditorial, quel rôle ça peut jouer pour les lecteurs, pour les auteurs, pour les éditeurs.
S'est interrogé à la création de ce prix en 2002. Il y en a plusieurs. Il y a une notion pour reprendre une formule célèbre de gagnant. ça ne peut pas être autrement, c'est-à-dire la qualité des relations qu'on peut avoir avec les uns ou les autres entre en jeu sans doute d'une manière sans doute derrière là par là, mais bon voilà, il y a des choses qui l'éditeur, parce que l'éditeur qui a reçu un prix joue le jeu. Si l'éditeur ne joue pas le jeu, c'est-à-dire n'annonce pas, ne met pas sur sa couverture, ne met pas de bandeau, ne met pas dans les rééditions que le prix, que ce livre a reçu le prix, ça nous est moins enfin c'est moins fort, je veux dire voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Si un livre, on discute souvent ensemble, parce qu'un livre, il y a une vie d'un livre, on sait très bien que la vie du livre est de plus en plus courte. Donc donner un prix à un livre qui n'existe plus en librairie, c'est pas forcément bien. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui interviennent, c'est un aspect un peu entre guillemets politique. Voilà, on réfléchit aussi à ces questions-là, même si ce n'est pas les premières questions qu'on se pose, bien évidemment. Mais quand on a un choix entre deux bouquins qui se valent, on essaie de savoir lequel est le plus intéressant. Attribuer un prix à un livre qui n'existe plus ou qui ne sera pas en librairie, ou, voilà, ça n'a pas trop de sens, ça ne sert ni le livre ni le prix. Donc,
je pense que c'est un prix qui est prestigieux, tout de même. Il n'y en a pas beaucoup en France pour la fantaisie. Il y a le Grand Prix d'Imaginaire qui est plutôt SF, qui tend à évoluer, mais qui est ouvert aux différents. Bon, c'est vraiment le prix de fantaisie. Pour les auteurs français, je pense que c'est vraiment important. Pour les auteurs français adultes et jeunesse, hein, c'est vraiment une reconnaissance qui peut vraiment faire la différence pour une carrière par la suite. Pour les grands auteurs américains, peut-être moins, donc c'est aussi voilà, un critère qui peut rentrer en compte. On ne va pas donner chaque année le prix à George Martin, alors qu'on pourrait, mais voilà, on se dit qu'il n'a peut-être pas besoin du prix imaginal pour que son œuvre soit reconnue. À ce moment-là, pour les romans traduits, donc souvent américains, mais pas forcément, c'est pour l'éditeur que le prix est important, parce que ça sanctionne, ça reconnaît sa politique de traduction, le bon choix qu'il a fait des meilleurs livres. Voilà, une veille littéraire menée par les éditeurs qui vont choisir les meilleurs romans étrangers et ensuite les faire traduire. Donc voilà, ça reste important de donner un prix à un roman étranger, ne serait-ce que pour ce travail des éditeurs et des traducteurs.
Et puis pour les lecteurs, je crois que c'est important, c'est surtout pour eux en fin de compte qu'on travaille. Le prix imaginal est une balise qui éclaire cette espèce de mer de livres qui apparaît chaque année et qui peut donner aux lecteurs qui cherchent dans les rayons des librairies le livre qu'il a envie de lire, l'envie de lire un livre qui a été choisi par des gens qu'on estime être quelques experts, enfin qui connaissent bien la matière et qui ont été choisis par eux comme les meilleurs de l'année. Je crois que là, ça donne vraiment au public un choix immédiat. Le tri a été fait, et voilà, ça c'est ce qu'ils pourront lire pendant l'année, et plus que ça, j'espère. Mais voilà, une idée de lecture à faire, et je crois que c'est très important. Je ne sais pas si les éditeurs en ressentent les effets, mais j'ai l'impression quand même qu'ils ne crachent pas là-dessus.
Et dernière chose que je voulais ajouter, parce que Sylvie, tu parles, tu dis que le prix avait souvent été précurseur, et tu signalais que c'est la première fois qu'on le donne une deuxième fois au même auteur, parce que bon, ça reste vraiment exceptionnel. On essaie vraiment de privilégier justement les nouveaux entrants, de repérer des débuts de carrière, des premiers, des seconds romans qui marquent un renouvellement dans le pool des écrivains. Donc effectivement, souvent, on a primé des gens en début de carrière et on a eu le plaisir de voir qu'effectivement, ils étaient à la hauteur des espoirs qu'on avait pu placer en eux au départ.
Alors, c'est vrai que là, quand on parle de lecteurs, on est beaucoup sur le roman francophone ou étranger, mais il y a aussi une spécificité sur ce prix, c'est que vous récompensez d'autres formes, avec notamment l'illustration, qui permet aussi là, de mettre l'accent sur le travail d'un partenaire. tel qu'au travers de la couverture que le regard de l'éventuel acheteur va être, ou d'éventuel lecteur va être attiré. Comment ça se passe au niveau de l'illustration? Comment est-ce que vous orientez vos discussions et quels sont un peu vos critères là?
C'est plus compliqué l'illustration. Parce que l'illustration, il y a à la fois le côté technique, mais il y a un critère subjectif de beauté et de couverture qui parle plus ou moins aux gens. Donc il faut à la fois qu'on ait une illustration qui soit un petit peu originale, techniquement intéressante, qui soit à la fois pas trop classique, mais qui en même temps incite aussi à la rêverie et à notre rêverie en premier lieu. Et c'est toujours la catégorie la plus compliquée, pas tant en termes de discussion, mais il y a beaucoup de couvertures qui pourraient y prétendre. Et c'est toujours un peu compliqué de se dire ok, c'est là. Là, les critères sont un peu plus larges pour choisir.
Et de même que vous tenez un peu compte de la carrière de l'auteur en essayant de donner un coup de pouce à de jeunes auteurs, est-ce que là aussi vous regardez un petit peu la carrière de l'illustrateur? Une autre catégorie, donc, puisqu'on était en train d'explorer un peu les catégories du prix imaginal, une autre catégorie, c'est la nouvelle. Alors, autant pour les romans, on en reçoit plein, il y en a beaucoup. Pour la nouvelle, quelles sont vos sources? Et est-ce que finalement, vous arrivez, parce que la nouvelle, ce n'est pas forcément un genre extrêmement lu en France. Les anthologies, il n'y en a pas tant que ça, parce qu'elles ne se vendent pas bien. Les recueils de nouvelles, on en trouve de moins en moins. Donc, comment est-ce que vous récupérez finalement les nouvelles que vous allez pouvoir lire et primer?
Je pense qu'on s'est un peu la panique au dernier moment. Et là, je termine.
En fait, on a parlé du coup de veille qu'on peut faire les uns les autres et avec Amélie, Anne, Jean-Claude, etc. Le truc, c'est qu'effectivement, il y a assez peu de production de nouvelles, donc il faut être d'autant plus attentif pour ne pas laisser passer. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a assez peu de production de nouvelles, mais on a des nouvelles de très très haute qualité. La nouvelle, c'est vraiment un art exigeant, et que ce soit cette année, l'année dernière ou les années d'avant. On a vraiment des choses qui sont marquantes et on n'a pas à rougir. Il n'y a jamais de choix par défaut. Enfin, j'en crois toujours dans la nouvelle d'Hélène que je crois cette année. Là, on a quelque chose, on est pépite. Mais ça fait partie de notre. Enfin, moi, je ne conçois pas le rôle de juré comme simplement quelqu'un passif qui attendrait les livres, hein, qui arrive à la maison, et puis, pas vu, pas choisi. Quoi. C'est aussi un peu de veille, c'est aussi faire attention et se dire tiens, là, il y a une anthologie qui sort, ce serait peut-être pas mal pour le prix que quelqu'un y jette un œil. Ça fait partie de ce filet d'infos qu'on fait tous ensemble, hein, pour essayer de remonter à la pêche comme des petits saumons. Donc, la nuit noire de la littérature dont nous sommes les phares de la fantaisie.
Ah, ça oui, ça.
Mais en fait, pour les nouvelles, il y a un producteur d'anthologie ou de revue comme fiction, de la Clive Bifrost, où il y a des nouvelles parfois bonnes, parfois un peu moins. Mais il y a aussi des anthologies qui sont éditées par des tout petits éditeurs, souvent. Et là, c'est parfois plus compliqué, parce que les éditeurs n'ont pas toujours les moyens d'offrir. Pendant 5 ou 6 bouquins, ça nous aussi
fois dans ce réseau, mais aussi avoir des nouvelles sous forme numérique que ces éditeurs nous envoient pour qu'on puisse juger. Ça a d'ailleurs été le cas pour toutes les nouvelles, c'est-à-dire où là aussi, on ne va pas tout lire de ce qui est dans une anthologie pour sortir. Enfin, la chronique le fait, oui, mais après, pour que tout le monde puisse accorder ce violon, eh bien, il faut qu'on puisse tous le lire. Là, c'est peut-être plus facile en numérique.
USF les publie, mais comme on ne prend pas en contact USF, ça nous bloque tout d'une part. Voilà, on essaie de soutenir la production des anthologistes et des nouvelles, parce que c'est un vrai genre impressionnant en soi, et qu'on voit bien qu'il y a des années où trop d'anthologies paraissent en France.
On ne prend pas en contact l'anto avec USF, on ne prend pas non plus en contact l'anto avec USF. C'est difficile parce que c'est la question.
C'est une notion importante parce qu'il faut bien aussi comprendre que sur le fonctionnement du jury, on a des éditeurs qui envoient des bouquins. Quand vous êtes éditeur, vous envoyez 6 bouquins à des membres de jury, et puis il y a un événement tous les ans. Donc c'est aussi un job important, et je pense qu'on y fait tous attention au sein du prix. Ne pas oublier les petits éditeurs qui ne nous enverraient pas systématiquement leurs bouquins, quoi. À faire attention à ce qu'il y ait une production globale et un regard global, et parfois c'est presque étonnant. Et même notamment dans plus spécialement, on va y arriver, je vais faire un petit bout, où parfois les uns les autres amènent des initiatives qu'on n'avait pas forcément vues ensemble, mais cet échange-là sur la diversité, et toi peut-être plus que sur les choix ou les goûts sur la fantaisie, même si on a chacun nos marottes, nos trucs, enfin voilà, moi j'aime bien quand c'est barbare, pas trop, hein. Il faut me dire, oh, encore un truc de mec avec du sang, tout ça, et voilà, ouais, enfin bon, quand même.
Mais ça veut dire que j'emploie parce qu'il est belge, il prend que de la fantaisie avec des trolls.
Ah oui, il aurait même du tintin tous les deux. Mais enfin voilà, donc bref, enfin, moi je suis pas très content de dire ça. Mais cette diversité-là dans le monde du jury, c'est ça en fait, notre véritable force. Parce que sur les coups, on peut discuter, on a assez intelligent pour discuter, reconnaître les qualités et les défauts. Par contre, on a un jury qui soit attentif à la globalité pour ramener les bonnes idées, que ce soit de texte ou de prix spéciaux. Ça, je trouve ça vachement intéressant dans notre fonctionnement en interne. Quoi.
Alors, on disait tout à l'heure l'anthologie des Imaginales, le prix Imaginal, bien évidemment en lien très fort avec le festival des Imaginales. Quels sont les liens et les rapports entre le prix et le festival ?
Oui, c'est une question importante. Depuis le début, depuis la création du prix, nous avons voulu qu'effectivement il y ait un lien fort. C'est d'ailleurs pour cela que moi je fais partie du jury. J'aurais pu fort bien ne pas en faire partie. Mais à certains moments, dans la discussion, peuvent intervenir un certain nombre d'idées sur les thématiques du festival de l'année, sur des partenariats qu'on peut avoir, sur des rencontres qu'on peut avoir, en fait, etc. Et surtout, je suis une sorte de... Je ne dis pas qu'ils veulent voler leur proposer, mais je suis une sorte de gardien du temple, entre guillemets, du phare. Non, du phare. J'essaie de voir cet espace bien, en gros, voilà. Mais on n'a pas mis dans le jury la directrice artistique du festival. On n'a pas mis. On a dans le jury des membres éminents du groupe de modérateurs, bien sûr, parce que toutes les personnes qui sont à cette table modèrent plusieurs cafés littéraires ou animent plusieurs conférences ou tables rondes. Mais il n'y a pas de lien autre que pour moi. Le festival et le jury. Voilà. C'est venu comme ça, c'est venu comme ça dès le départ. Je pense que c'est une bonne chose. Je participe à d'autres jurys littéraires où il n'y a pas forcément la direction du festival n'est pas dedans, et parfois ça pose des problèmes. Ça dévie toujours un petit peu, ça. Voilà.
Alors je sais qu'il y a une articulation au moins sur un point, c'est qu'en général, le principe est que les lauréats sont invités au festival l'année suivante pour pouvoir justement.
Quand
ils sont disponibles, bien sûr. Donc, ça leur donne une très bonne visibilité au niveau du festival et l'occasion de rencontrer des lecteurs. Donc, ça, c'est intéressant d'avoir ce lien entre le festival et le prix.
Oui, tout à fait. Alors, et en revanche, on constate que les invités de cette année du festival, que ce soit le coup de cœur, Victor Dixon ou les invités principaux, Chloé Neal ou Thomas Mercombi, font partie des nominés pour certains d'entre eux, mais n'ont pas reçu le prix. Donc voilà, il y a un découplage entre le programme de l'année et ce qu'on choisit, nous, de lire pour le prix, d'avril à avril, donc sur la même période que le festival. Et c'est seulement effectivement l'année d'après qu'on va pouvoir rencontrer. Bon, souvent, ils sont là d'une année sur l'autre, mais. On a le plaisir comme ça de les retrouver, et justement, c'est cette idée de lancer des carrières ou de permettre de prolonger une visibilité qui est importante pour ce prix.
Ce qui est important, et je pense qu'on le fait tous, nous sommes jurés, donc nous sommes attentifs à la qualité, mais on n'a pas de hier. Évidemment, Bernard parle aussi du festival, et c'est le prix marginal, c'est pas le prix de la fantasy. Donc il y a un lien. Sans angélisme, sans se dévoyer complètement, on a aussi toutes ces questions là en tête. Nous sommes garants de la qualité. Bernard est aussi garant du festival. Et évidemment, on discute. Et évidemment, on est attentif à un jeune auteur, pas un jeune auteur, le début d'une série, un milieu de série, voilà, tel éditeur et pas tel autre. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les discussions sont secrètes et restent secrètes. Il n'y a pas de grand mystère, mais. Tout ça, on prend en compte. Et c'est ce qui fait aussi la force du prix. On est pris des images. Alors, on ne peut pas être non plus en complet décalage avec ce qui se passe à l'Épinal tous les ans. Et l'inverse est aussi vrai. Et c'est ça qui est aussi intéressant. C'est qu'on est tous conscients de où on est, pourquoi on est là, et comment ça se passe. Donc, ça passe bien. Côte du Rhône.
Dernière question, parce que je vois que le temps qui nous est imparti va bientôt être écoulé. Dernière question, donc là, certains d'entre vous sont membres du jury depuis un bon moment, d'autres ont rejoint une certaine mouvance. Est-ce que vous avez un petit peu en tête, dans votre évolution personnelle, est-ce que vous envisagez à un moment donné de quitter le prix? Est-ce que vous avez réfléchi à la question les uns ou les autres? Bon, donc pour l'instant, un bon jury qui tourne et qui s'installe dans la durée, en voyant plus tard. Bien, bah écoutez, ça va nous servir de conclusion. Moi, c'est un prix que je défends et je pense qu'il a acquis vraiment une vraie notoriété dans le paysage éditorial français et au niveau du public. Donc, je vous encourage, il y a sur le site des Imaginales la liste de tous les lauréats de cette année et des années précédentes depuis l'existence du prix. Donc, je vous invite à aller découvrir les œuvres qui ont été primées, si vous ne l'avez déjà fait. Nous souhaitons longue vie au prix Imaginal et merci à nos intervenants et merci au public. Dernière chose, est-ce que vous avez des questions? Oui. je peux en parler puisque j'ai fait partie du prix pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, donc, j'ai aussi une activité professionnelle extrêmement prenante et j'avais mené un gros travail aussi de défrichage sur la science-fiction hispanique qui demande aussi des temps de lecture, de recherche, et ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Et je me suis retrouvée, moi, à un moment où j'avais une frustration croissante. D'abord, j'avais besoin aussi de temps pour écrire, puisque ma carrière d'écrivain s'est développée. J'avais plus le temps de traduire, enfin, de lire. Et à un moment donné, j'ai vu arriver effectivement une saturation où ça me devenait pesant de lire les livres. Et comme je suis quelqu'un qui agit toujours avec la plus profonde honnêteté, je ne voulais pas que des auteurs se trouvent lésés parce que j'aurais mal lu quelque chose, parce que j'aurais pas eu le temps de lire un livre et que j'aurais pas fait mon travail correctement. Ça n'aurait pas été honnête par rapport à mes collègues membres du jury. Et c'est pour ça que j'ai décidé de quitter le prix et de laisser la place à quelqu'un qui pourrait le faire bien mieux que moi. Donc je pense qu'au sein de ce jury, les membres sont honnêtes et qu'à un moment donné, s'ils voient qu'ils ne seront plus en mesure de faire correctement leur travail, ben, ils n'hésiteront pas à passer la main.
Donc tu as commencé avec des contrats avec des
non, mais je pense que j'aime beaucoup ça, aussi un petit peu. À un moment donné, ils souhaitaient se consacrer à d'autres choses et où ils voyaient qu'ils n'arrivaient plus à y mettre l'énergie qu'il fallait, ben voilà, il a très gentiment passé la main et quelqu'un d'autre est venu, mais c'est bien, du coup ça donne une certaine confiance, ça enrichit, ça permet de...
On n'a pas assez de lire, on n'a plus tous ces livres, moi ça
me sert, ça me sert. Ah mais non, mais moi j'en ai d'autres, j'ai énormément de piles, et justement je commence à me remettre là sur la SF espagnole, hispanique, si je continue de lire, voilà. De temps en temps, j'avoue, les discussions du jury me manquent, parce que ça a vraiment été un très très beau moment de convivialité et en ayant vraiment l'impression d'avoir un rôle utile en défrichant le terrain, en repérant des choses. Ça a vraiment été un bonheur de participer à ce prix. Et c'est vrai que bah, voilà, j'ai eu une petite tristesse et de temps en temps, j'ai eu ma petite nostalgie. Mais bon, je me dis que les gens qui m'ont remplacé derrière font ça très bien. Je suis absolument ravie, donc tout va bien.
Je dis justement sur Jacques Godot. Moi, je suis allé dans le prix il y a 7 ans. C'était la classe hein, d'être à côté de Jean-Claude et Jacques Godot quand même.
Oui.
En termes de background, de discussion, etc. Je vais quand même écouter ce qu'il raconte M. Jacques Godot, M. Jean-Claude Ventroyen. Ça peut être intéressant. Ce qui ne veut pas dire que l'admiration étant là, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des frais de discussion. Mais qu'est-ce que c'était chouette, quoi. Ouais, qu'est-ce que c'est chouette de le faire.
Voilà, écoutez, c'est sur ces bonnes paroles, nous allons clore les débats. Donc, merci à tous. J'avais dit à Steph que je souhaitais la modérer celle-là, parce que comme j'avais vécu le truc de l'intérieur, je pouvais un peu poser les questions qui vont bien.